Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour, aujourd'hui je reçois un invité un peu particulier qui se présente lui-même comme un enfant de 49 ans. Cet invité c'est André Stern. Il est musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste et auteur, notamment de « Et je ne suis jamais allé à l'école », « Jouer » ou encore « Tous enthousiastes ». Il est aussi marié, père de deux enfants. Il a été nommé directeur de l'initiative « Des hommes pour demain » par le professeur et docteur Gerald Hüther, chercheur en neurobiologie avancée. Il est l'initiateur du mouvement Écologie de l'enfance et directeur de l'Institut Arne Stern. C'est un laboratoire d'observation et de prévention des dispositions spontanées de l'enfant. Comme vous l'aurez compris, nous allons parler de l'enfant. Nous allons parler de l'adulte. Nous allons parler de l'humain. J'ai eu beaucoup de mal à définir cet épisode. J'ai eu beaucoup de mal à vous dire ce qu'il contient. Et finalement, je préfère vous le présenter comme un voyage. Un voyage de l'autre côté du miroir vers des perceptions totalement ouvertes et nouvelles que nous pouvons avoir de l'enfant, de notre rapport à l'enfant, de notre rapport à l'adulte, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport à nos relations. Je vous invite à écouter cet épisode avec attention, tranquillement, dans une atmosphère qui vous convient et où vous êtes à l'aise. Et je vous souhaite un très bon voyage. Bonjour André.
Bonjour Cédric.
Je suis ravi de vous recevoir dans le podcast Papatriarcat. Et votre travail est un travail que je trouve inspirant, que j'ai lu depuis quelques années, et je vous en remercie. Et je me rappelle très bien votre coup de téléphone qu'on m'avait annoncé que vous avez accepté de faire cette interview. Et pour le coup, je voudrais juste revenir pour commencer sur la façon dont vous m'avez abordé en parlant des violences dites éducatives ordinaires et en me disant que c'était intéressant parce que nous n'avions pas du tout le même chemin, voire qu'ils étaient opposés sur le sujet.
Ah oui, je me rappelle bien de ça. On a eu effectivement, et c'est frappant, et c'est ce qui m'amuse et ce qui m'enthousiasme dans la vie, c'est tous ces clins d'œil-là. C'est vrai que vous et moi, on va parler d'une chose, je pense qu'on va être d'accord sur la plupart des sujets. Donc on va dire qu'on est arrivé à un endroit similaire, mais alors on a fait une progression diamétralement opposée, diamétralement inverse, c'est-à-dire qu'il a fallu que vous compreniez qu'elles existent parce qu'elles étaient naturelles pour vous. Et il a fallu que moi, je les comprenne parce que je venais tellement d'ailleurs qu'il a fallu que j'admette, comprennent et explorent le fait qu'elles existent. Donc, c'est deux cheminements complètement inverses qui arrivent exactement au même endroit.
Et comment est-ce qu'on chemine sur ce sujet-là, quand c'est pas naturel ? Parce que si vous voulez, moi, de mon côté, pour moi, c'était la norme, en fait. Et il a fallu, pour le coup, aller casser ça. Et comment est-ce qu'on chemine quand on doit assimiler quelque chose qu'on n'a pas connu comme ça ?
C'est un chemin assez long, hein. C'est un chemin assez long qui dure encore, je dois le dire. Voilà, j'ai 49 ans, je suis un enfant de 49 ans, et j'ai pas fini. En ce qui concerne les ismes, j'ai pas fini de m'en approcher à pas de velours, parce que parfois ça fait peur, parfois c'est trop absurde, et parfois c'est trop étrange, trop étranger. Alors moi, le fait que je vienne d'un autre endroit, hein, d'une place différente, c'est pas un mérite personnel, ça je tiens à le dire dès l'abord, c'est pas un mérite personnel, j'y peux strictement rien, ça ne me rend ni admirable, ni spécial. C'est pas un mérite personnel, c'est pas une chose que j'ai inventée, c'est pas une chose que j'ai développée, c'est pas un acte héroïque ou un acte de ma part. J'ai eu une extrême chance pour laquelle j'éprouve une extrême gratitude, c'est de naître dans une certaine famille, donc dans une certaine attitude envers l'enfance, puis envers la vie. J'ai eu l'extrême chance qu'on n'ait pas dénaturé mon être profond, mais mon être profond est celui de tous les enfants, et donc je tiens beaucoup à parler de tous les enfants. Et donc, ma chance, c'est qu'on n'ait pas dénaturé quelque chose, qu'on ne m'ait pas éloigné de ma nature profonde. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas du tout moi, mais c'est la nature profonde de l'enfant. Et donc l'enfant, lui, il part, concernant les ismes, il part d'une feuille totalement blanche, d'une virginité complète. Le isme est une notion qui n'existe pas pour l'enfant, qu'elle existe d'autant moins que l'enfant arrive d'un monde complètement homogène. Alors je vous invite à consulter les écrits de Jean-Marie Delassus, l'inventeur de la maternologie concernant la vie prénatale, qui est homogène. C'est tout simple, prenons l'exemple de la... C'est-à-dire, il n'y a pas de besoin, puisqu'il n'y a pas de manque, on ne connaît pas la faim, on ne connaît pas la température. La température n'est pas une notion qui existe, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de froid, il n'y a qu'une température. Et puis on vient au monde avec cette idée d'homogénéité et cette nostalgie d'homogénéité qui va nous porter toute notre vie. On vient au monde et on tombe de plein pied, comme dans un bain froid, dans un monde binaire. Mais donc, c'est pour ça que l'enfant est une feuille blanche concernant les ismes, parce que il n'y a pas de binarité à tous ces endroits-là pour l'enfant. Et si on ne le dénature pas, il n'y a aucune raison que cela change. Et c'est pour ça que mon cheminement m'intéresse, non pas comme étant le mien, mais comme étant celui d'un enfant qu'on ne dévie pas. Alors, je le vis chez d'autres enfants, je le vis notamment chez mes enfants. Et donc, ça confirme que c'est la nature de l'enfant et que ce n'est pas moi qui suis spécial. Je tiens beaucoup à préciser ça dès l'abord. Alors maintenant, comment on s'approche, pour finalement répondre quand même à votre question, comment on s'approche de ça ? Eh bien, longtemps, on ne s'en approche pas. Parce que les enfants vivent dans un monde de diversité. Ils ne sont entourés que par la diversité. Donc, ils ne se rendent pas vraiment compte. Pour eux, il n'y a que diversité. Il n'y a pas de normalité. Donc, ce qui est la normale, pour eux, n'existe pas. Donc, on s'approche, hein, pas à pas. Puis, tout d'un coup, c'est vrai qu'on est confronté à certaines choses. On est confronté dans un supermarché à une maman qui flanque une gifle à sa fille en plein, et ou qui l'engueule, ou toutes les petites réprimandes du quotidien, tous les petits gros yeux, toutes ces choses qu'on constate. Mais on les pense d'abord individuelles. Ouh là, c'est un papa qui est comme ça. Bon. On pense du coup qu'il est avec tout le monde comme ça, on ne pense pas qu'il n'est comme ça qu'avec ses enfants ou qu'avec sa femme, etc. Et puis plus tard, on devient plus grand, on commence à avoir une vie amoureuse, on commence à rencontrer beaucoup d'ismes, on rencontre des ismes auxquels on ne s'attendait pas.
Donc là, on se parle, juste pour les ismes, on se parle de sexisme, racisme, adultisme... Voilà, on se parle des ismes, quoi.
Oui, tous les ismes, spécisme, tous, hein, puisque,
oui, spécisme. Voilà,
et bientôt, le validisme, tout cela, des choses, oui. L'enfant, tout cela, il ne connaît pas, il ne voit pas comme ça, parce qu'il n'a pas cette vision binaire, il a, encore une fois, je tiens à le répéter, il a une vision très homogène, très fluide des choses, et le genrisme, taisons-le aussi, comme ça on n'aura pas à faire un deuxième podcast, quoique on soit en plein dedans en réalité. Et donc, on s'en approche, on est adolescent, on est jeune adulte, je ne crois pas en ces catégories, mais j'essaye de faire une chronologie compréhensible, alors que pour moi, tout ça, c'est aussi de l'agisme. Parler de jeune enfant, enfant, adolescent, jeune adulte, personne, je ne sais pas quoi, alors après, on devient teenager, on a 20 ans, on est trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, attention, et puis après, on est juste vieux. Et tout ça, c'est des ismes. Et puis l'enfant a une vision beaucoup plus. Alors toujours en progression, mais donc comme une courbe ascendante. Il ne voit ça que comme ça. Et donc mais il n'a pas tous ces joints, hein, tous ces joints de dilatation ou tous ces moments charnières. L'enfant, il les connaît pas, il les voit pas. Et si on lui orchestre pas sa vie à grands coups d'examen, d'âge de raison, de 15 ans, 20 ans, 18 ans, le permis de conduire, etc. Si on ne lui compartimente pas tout ça, il ne voit qu'une progression pas linéaire, mais très douce, très régulière. D'où le fait que moi, n'ayant pas eu à vivre les fameuses charnières attendues, je suis toujours resté au stade 1, donc je suis toujours un enfant. Voilà pourquoi je sais que c'est irritant, c'est pour ça que je me présente toujours comme ça. Je vais finir par répondre à votre question. Donc on continue à s'approcher de ces choses-là. Et puis un jour, on constate des désynchronisations entre ce que l'on ressent, ce que l'on vit, sa manière d'aborder les autres et ce que les autres ont visiblement vécu jusqu'ici. Et puis on se contente d'en prendre note. prendre note aussi d'une certaine détente progressive de certaines personnes dans certaines situations face à vous. Et vous vous demandez pourquoi? Parce que vous continuez à penser que ce n'est pas une histoire de personne, ce n'est pas moi, individu, qui provoque ça chez la personne. Donc, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et donc, très indépendamment de soi-même, hein, ce n'est pas du tout chercher qu'est-ce que je fais de spécial, mais pourquoi c'est comme ça? Et puis, je dois avouer que moi, le grand pas dans la compréhension des violences ordinaires, je l'ai fait quand j'ai commencé à parler d'éducation avec les autres. Ils ont commencé à me poser des questions. Et puis, je dois avouer qu'il y a aussi énormément de conversations avec ma femme, celle qui allait devenir mon épouse, qui a fait un cheminement qui m'a aidé à comprendre, parce que du coup, c'était presque la chair de ma chair. Mon épouse, c'est la moitié de moi. Hein, donc, du coup, il me devient nécessaire de vivre certaines choses que je n'avais pas jusque-là eu à vivre. Il me devient nécessaire de les vivre et donc de les comprendre et du coup de les rétroéclairer, j'allais dire, pour comprendre les différences de cheminement pour arriver au même endroit. Est-ce que, Cédric, là, j'ai plus ou moins répondu?
Ce que je comprends, c'est que l'enfant arrive sans aucun, enfin, totalement blanc et vierge de tout jugement, de tout. Par rapport à votre chemin, ce que je comprends, c'est que vous avez observé, avec toute la curiosité d'un enfant aussi, je pense, des situations qui vous ont peut-être semblé désynchronisées par rapport à ce que vous vous ressentiez. Et puis, à un moment, il a bien fallu comprendre ça. Et puis, comme je ne doute pas que, avec tout l'enthousiasme... Attention, on parle d'enthousiasme dans l'apprentissage et dans une tâche. Et s'enthousiasmer pour apprendre ce que c'est les violences éducatives n'est pas quelque chose de mal, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. On s'enthousiasme juste pour un sujet. Je trouve ça, moi, en tout cas, très, très intéressant et très beau que ça passe aussi par la rencontre avec votre femme. Et c'est très intéressant aussi que ce soit vos échanges sur l'éducation qui aient amené cette compréhension, ou en tout cas cette approche des violences.
Parce qu'on cherche une espèce de méta, de niveau, de méta-niveau à tout ça. Hein. On part de petites situations du quotidien où on n'a pas appris comme quelqu'un d'autre, où on n'a pas été éduqué comme quelqu'un d'autre. Puis on passe à l'échelle supérieure. C'est parce qu'il y a un système éducatif. Et puis ensuite, on passe à un niveau supérieur qui est donc, s'il y a un système éducatif, c'est qu'il y a un système. Et puis s'il y a un système, c'est qui au-dessus, quel est le méta-niveau de tout ça? Donc c'est ça la recherche. Et parce que c'est à la recherche, ça commence, je pense, hein, pour moi, par la recherche d'un dénominateur commun à pas mal de mots, et puis une manière d'élaguer le personnel pour essayer de toujours aller vers le général, d'élaguer mes idées, mes concepts, etc., pour aller vers l'enfant et ce qui sort de lui, et pas ce qu'on essaye de faire entrer en lui. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle est violente. Écœurante, dégoûtante. On essaie tous de faire entrer des trucs. On est là et mettre les doigts pour faire entrer des trucs dans l'enfant. Et puis on en oublie de regarder ce qui sort de lui. Donc c'était peut-être ça à la base. Et puis je me suis interrogé aussi sur ce que mes parents avaient fait différemment. Pourquoi ils l'avaient fait différemment? S'ils n'avaient rien lu de tout ce que j'ai pu lire, ils n'avaient aucun étayement scientifique parce que ça n'existait pas à l'époque, alors que moi j'ai tout ça maintenant, j'ai tout mon travail avec les scientifiques, etc. Pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés à tout ça? Et puis j'ai beaucoup réfléchi à tout ça également avec mon ami Erwin Wagenhofer, le cinéaste autrichien qui a fait le film Alphabet, qui nous a amenés à nous rencontrer, mais qui avait fait avant We Feed the World, et avant il avait fait Let's Make Money, la trilogie de l'épuisement, comme il appelle ces trois films. Donc tout ça amène à beaucoup de réflexions et à se rendre compte d'une chose en réalité, c'est qu'il y a un moment fatidique dans nos vies, mais dans le monde aussi, où nous quittons la confiance pour passer à une notion de défiance, à une motion de censure générale envers l'enfant, envers nous-mêmes, etc. Et donc, en réalité, c'est parce qu'on a quitté la confiance. Donc, du coup, on passe à un autre méta-niveau qui est celui de la confiance. Et pourquoi on quitterait cette confiance? Et c'est là qu'intervient un concept que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, donc à essayer d'expliquer, qui est celui de l'enfant blessé. Et du coup, je reconduis toutes les violences ordinaires qui font qu'il y a des enfants qui meurent chaque année sous les coups de leurs parents, jusqu'à des plus petits détails comme les gros yeux dont on parlait tout à l'heure, ou le marchandage du quotidien, ou le marchandage pédagogique qu'on connaît et qu'on voit tous, ou qu'on voit pas, et qu'on connaît mais qu'on voit pas, comme tel en tout cas. Y a donc quand même une source commune à tout ça. et la source commune à tout ça, c'est donc cet enfant blessé. Et c'est pour ça que pour moi, ça commence très, 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 très tôt, puisque ça commence avant notre naissance, mais il faut bien commencer quelque part. Alors, je vais essayer de rendre claire l'idée. Si on a tous un enfant blessé en nous, c'est parce que nous nous voyons aujourd'hui encore, chacun d'entre nous, comme nous avons été vus quand nous étions enfants. C'est inévitable. Alors, l'enfant, très très tôt, très 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 tôt, reçoit le message que tel qu'il est, c'est pas terrible. Et on s'en rend pas compte, mais c'est une des choses les pires qui soient, hein, puisqu'on a tous envie qu'on nous dise l'inverse. Hein. Mais donc, tel que tu es, c'est pas bien. C'est un message, c'est l'un des premiers messages que nous percevons. Déjà, avant la naissance, hein, on nous compare à des tableaux, les parents supplient les courbes d'être au 50e percentile et puis ils sont soulagés si c'est au-dessus. Donc on est déjà dans un certain jeu où je ne dis pas que ce n'est pas utile hein, tout ça. Hein, je dis juste qu'il y a une attitude derrière ces courbes, pas que les courbes sont mauvaises, mais qu'il y a des attitudes derrière ces courbes qui font que ben voilà, si l'enfant est en dessous de la courbe, on aimerait bien qu'il change et qu'il soit dessus. Alors bien sûr, des fois c'est inquiétant, c'est déjà un certain message qu'on est en train de préparer, même si on ne peut pas encore le lui communiquer, quoique on ne sait jamais. Mais ensuite, il vient au monde, et là je vais prendre une métaphore que vous allez tous reconnaître. Ensuite, il vient au monde, l'enfant, et ses parents sont dans la tempête. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand les enfants viennent au monde... Les parents sont sacrément dans la tempête.
J'ai une grosse pensée pour un autre podcast qui s'appelle La Matrescence, qui parle justement de ces tempêtes, notamment chez les mères, et ça existe aussi chez les pères. Et c'est une contraction du mot maternité-adolescence. et je trouve que ça dit bien tout ce qui se passe, quoi.
Ah oui, et puis tout, rien n'est comme on l'attendait. Tout est nouveau, tout est différent. On est si fatigué. Et puis on s'attendait pas à tout cet amour, tant d'amour. Et tout ça, donc ça nous bouleverse, on est fatigué, le corps est bouleversé, la constellation est bouleversée. Si on était en couple, voilà qu'on est trois, voilà que les priorités, voilà que tout, enfin tout. Et puis c'est pas parce qu'on y est forcé, c'est souvent parce qu'on le veut. Enfin, c'est un tel bouleversement. Et on est tellement angoissé. Et en plus, on est sous l'emprise de certains paradigmes qui fait qu'on a envie d'être de bons parents. Alors on y reviendra, j'espère, au concept du bon parent, parce que ça aussi c'est une sacrée pression qui nous est mise et j'y tiens beaucoup parce qu'en réalité elle commence déjà là dans ce que je suis en train de décrire. Et donc dans cet état particulier, disons, et pas toujours facile dans lequel on est en tant que parent d'un enfant qui vient de naître, on percute plus ou moins violemment le monde. Et le monde vous percute de manière nettement plus violente qu'on ne l'avait imaginé, et on s'en rend pas compte, et les autres non plus, tout ça c'est de la bonne volonté, paraît-il, puisque tout le monde va venir à notre rencontre avec une question, gentille et apparemment innocente, la petite question qui tue, la petite question gentille que vous allez reconnaître et qui est « Alors ?» Il fait ses nuits et blanc. Alors, pourquoi blanc? Parce qu'un enfant qui fait ses nuits, attends, je travaille avec des scientifiques, ils vont vous dire tous la même chose, un enfant qui fait ses nuits, ça n'existe pas. Un enfant qui fait ses nuits, c'est s'il y en a un sur mille qui fait ses nuits et c'est en général pathologique. Donc, dans l'immense majorité des cas, ça n'existe pas. C'est très, très drôle parce que les personnes qui vous posent la question ont eux-mêmes en général eu des enfants qui n'ont pas fait leur nuit. Cependant, on pose la question, est-ce qu'il fait ses nuits? Alors, on pourrait penser qu'elle est gentille, mais le problème, c'est que tout le monde la pose. Les grands-parents, les parents, les amis, le chauffeur de taxi qui vous ramène de la maternité, alors, il fait ses nuits, etc. Et puis, les gens au supermarché, ils viennent vers vous, puis ils voudraient presque mettre la main dessus. Et puis alors il fait ses nuits, etc. Alors du coup, comme on est déjà très fragilisé, qu'on sait plus trop ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut pas, etc. Hein, et donc cette question tellement récurrente vous amène à vous poser à vous dire, bon alors donc, si tout le monde la pose, c'est donc que c'est important que l'enfant fasse ses nuits. Or le mien ne les fait pas, donc c'est que mon enfant a un problème, ou que j'ai un problème, ou qu'il y a quelque chose que je... Bref, il y a un problème. Et à partir du moment où on pense qu'il y a un problème dans le paysage, on se met à aborder son enfant d'une certaine manière. Et là, c'est très subtil parce qu'on entre dans le non-verbal. C'est la langue que les enfants, les bébés, mais que tout le monde en réalité comprend et parle le mieux. Et dans le non-verbal, on va lui donner à ressentir la chose suivante. Je t'aimerais plus si tu dormais plus. Et ça, c'est un coup de poignard. Invisible, apparemment indolore, mais c'est douloureux, parce que ça veut dire ben, tel que tu es là, mon grand, ma grande. C'est pas aussi bien que ce serait si tu correspondais à mes attentes, à celles du monde. Et ça entraîne quelque chose. Ça veut dire que pour que je t'aime complètement, il faudrait que tu changes. Il faudrait que tu correspondes à mes attentes. Il faudrait que tu dormes tes nuits. Et donc, toi en plus, tu peux pas. Donc je suis en train déjà de te demander de ne pas être toi. C'est un message qui nous arrive donc très très tôt. Très très tôt et qui n'arrête plus. Toute une vie durant, on n'arrête plus de nous faire ressentir ben, tel que t'es, c'est pas aussi bien que si tu changeais, que si tu faisais des progrès, hein, faire des progrès, que si tu t'améliorais. Hein, et donc, et du coup, voilà l'émergence de l'enfant blessé, sachant que ça n'arrêtera plus et que nous continuerons à nous voir comme nous avons été vus et que, comble de fatalité, nous poserons ensuite sur nos propres enfants le regard qui a été posé sur nous parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Et cet enfant blessé, c'est terrible parce qu'en réalité, lui, ce qu'il voulait entendre, c'était « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et voilà la clé des choses, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est de la confiance inconditionnelle. Et je tiens beaucoup à cette notion parce que la confiance inconditionnelle, pour moi, elle vient avant l'amour inconditionnel. On pensait que l'amour inconditionnel, c'était de dire à un enfant « je t'aime ». Mais ça ne suffit pas du tout parce que ce « je t'aime », et c'est là la racine de la violence éducative et de la violence ordinaire, tout simplement, hein, cette idée qu'il va falloir te faire entrer dans autre chose que ta nature, cette violence ordinaire s'inscrit dans la petite virgule qui vient après ce « je t'aime ». Mais, je t'aime, virgule, mais je t'aimerais davantage si. Et ce « mais si » et ce poignard planté dans notre nature qui nous donne dès le début l'idée que ben, on n'est pas terrible comme on est, qu'il faudrait mieux qu'on soit autrement. Mais donc l'amour inconditionnel ne suffit pas, le « je t'aime » ne suffit pas. Il nous faut la confiance inconditionnelle qui seule garantit l'amour inconditionnel et la confiance inconditionnelle, c'est « je t'aime parce que tu es comme tu es ». « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». C'est la clé des choses. Et on va voir au cours de cet entretien, je suis sûr, on va avoir plusieurs occasions de revenir à cette, pour moi, ce niveau, ce méta-niveau de toute la problématique qui va nous occuper par la suite.
C'est extrêmement... C'est extrêmement intéressant parce qu'il faut que j'assimile en direct ces informations. Non, moi, je trouve ça passionnant, extrêmement intéressant. Je ne peux que vous rejoindre sur ce niveau de confiance inconditionnelle. Et j'ai envie de dire que c'est aussi un juste retour des choses parce que notre enfant a pour nous un amour inconditionnel. Il naît avec. C'est intéressant d'y donner en face une confiance inconditionnelle aussi. Le côté de l'enfant blessé, c'est passionnant. Quand vous dites « on agit avec notre enfant avec ce qu'on a connu et vécu », forcément, moi, ça me parle particulièrement. J'y vois aussi la notion d'enfant intérieur derrière. Et il y a un point super intéressant et qui m'interpelle parce que c'est une difficulté que moi, je vis au quotidien, c'est que quand on s'en rend compte, qu'on s'est fait accompagner, parce que personnellement, j'ai une thérapie sur le sujet, on se rend compte aussi de quelque chose de terrible, c'est qu'on ne sait pas faire autrement. Et qu'il va falloir réapprendre, recâbler tout un tas de choses.
C'est terrible.
Et c'est ça. Et au quotidien, c'est un vrai défi.
Et je suis en train de m'en rendre compte là. Voilà, quand on disait comment on s'approche, ben voilà, je viens de faire un pas de plus dans cette approche.
C'est ça. Mais c'est terrible, hein, parce que... Et c'est un petit peu d'ailleurs sur le sujet des violences dites éducatives ordinaires, le message que je voudrais passer aux parents, c'est qu'aujourd'hui en France, on a une loi. La loi est là. Et c'est super qu'elle soit là. Et donc, si jamais quelqu'un qui décide des campagnes de sensibilisation et d'accompagnement nous écoute, il est temps peut-être d'arrêter de culpabiliser aussi les parents sur ces sujets-là et de commencer à se demander comment est-ce qu'on fait pour les aider à faire d'une manière qu'ils n'ont jamais connue. Parce que le grand défi, il est là, quoi. Une fois que, finalement, approcher son enfant intérieur, ça demande un accompagnement, ça demande... ça fait tellement de bien que très sincèrement, on y plonge assez facilement. Mais la vraie question, c'est derrière. Comment je fais, quoi? Une fois que je sais ça, c'est comment je fais. Et là, on a un gros travail sur la violence éducative à fournir, justement. Et c'est pour ça que je vous remercie de cette intervention, parce que je trouve que c'est une vraie belle réponse qu'un parent puisse se dire, voilà, si je pense comme ça avec mon enfant, même si moi, je ne l'ai pas connu, mais si je fournis cette confiance inconditionnelle à mon enfant de cette manière, ça sera certainement pas parfait, et j'utilise ce mot à dessein parce que quand on pense à la perfection, c'est parce qu'on se compare, mais en tout cas, ça sera naturel, et ça sera nous, ça sera la relation pure telle qu'elle est censée être.
Alors, c'est parce que ce « je t'aime parce que tu es comme tu es » change tout. Et c'est une des clés. Finalement, moi, je me méfie toujours de ce qui nous coûte de l'effort. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai rien contre l'effort et j'en fournis quotidiennement. Mais vous allez voir pourquoi. Alors, il faut que j'essaye de pas trop ramifier. Mais cependant, nous sommes dans une société. Vous savez certainement qu'un de mes sujets, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, qui est cette force motrice hein, qui nous donne des ailes, qui nous permet de déplacer des montagnes. C'est l'état de l'enfance. J'ai beaucoup entouré l'enthousiasme de mes soins pour le comprendre et pour comprendre que toutes les histoires que nous aimons sont des histoires d'enthousiastes et qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui est enthousiaste, que toutes les histoires que nous aimons de celui qui ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait, sont des histoires d'enthousiastes. Et puis, parce que l'enthousiasme est une composante indispensable d'une chose dont nous devrons peut-être parler aujourd'hui, une chose qui n'existe pas, c'est drôle, hein, qu'une chose qui n'existe pas existe, c'est-à-dire la notion d'apprentissage. Apprendre n'existe pas. J'adore toujours annoncer ça. Mais scientifiquement, prouver, apprendre n'existe pas. Donc, je vous ai dit, je vais essayer de ne pas trop ramifier. Donc voilà, l'enthousiasme. Parlons d'enthousiasme, j'espère, tout à l'heure. L'enthousiasme, nous sommes dans une société qui, ayant tourné le dos aux enthousiasmes individuels, a dû ériger un culte de l'effort. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi je veux dire ça. Le culte de l'effort est venu en remplacement d'une pulsion intérieure, puisque on nous dit que ce qui nous enthousiasme n'est pas digne d'intérêt a priori, et que ce qui devrait être l'objet de nos efforts est ce qui en général ne nous intéresse pas, donc ne nous enthousiasme pas. C'est parce qu'on avait tourné le dos à la notion d'enthousiasme qu'il a fallu mettre sur un piédestal la notion d'effort. Et cet effort, ben, c'est toujours l'enfant blessé, parce que si je te dis ben, tel que tu es, c'est pas bien, il faut que tu changes pour être bien, et ben, c'est toujours la même chose. Si je te dis tu as fait de la violence éducative jusqu'ici, ben, c'est pas bien, grand méchant, il faut que tu changes. Et si tu changes, on t'aimera. Et ben, on se retrouve toujours dans cette situation qui est une nouvelle injonction et qui est un rappel de ce ben, pour que je t'aime complètement, il faudrait que tu fasses tes nuits. C'est toujours la même chose, on revient toujours à ça. Et donc, si le fait de venir à la confiance menace d'être un travail, un effort, etc., c'est que donc on n'est pas encore... Je prends toujours la notion de peine, d'effort, de travail, je la prends toujours comme aune à laquelle mesurer, pas la quantité d'effort à fournir, mais l'angle sous lequel on attaque la chose. Et tout simplement, en ce qui concerne l'enfant, c'est quand même un peu plus simple. C'est pas de chercher à partir... Il faut cesser, c'est ce qu'ont fait mes parents, de partir des idées, des concepts que les adultes ont en tête au sujet de l'enfance. C'est que ce qu'on fait quand on dit à l'enfant « je t'aimerais plus si tu dormais plus », c'est-à-dire qu'on remplace sa nature par notre concept de ce que serait l'enfance, de ce qu'est l'enfance et de ce que nous aimerions voir changer en notre enfant pour qu'il corresponde à ce concept. Donc en renonçant à notre concept de ce que devrait être l'enfance, alors c'est un peu difficile, on va me dire là aussi c'est difficile, comment renoncer à ces concepts puisqu'on n'en connaît pas d'autres, mais arrêtons de partir de nous, tout simplement, arrêtons de partir de nos expériences qui sont généralement mauvaises, arrêtons de partir de ce qui existe et partons de l'enfant, parce que l'enfant est un novateur, comme tous les enfants sont différents, ce que l'enfant va amener c'est forcément inattendu et c'est forcément inconnu, ça n'a encore jamais existé avant l'avènement de cet enfant, et c'est profondément intéressant, ça devrait attirer une profonde curiosité, un profond intérêt, un profond respect, que de se dire waouh, ce que l'enfant, ce qui va sortir de cet enfant là maintenant est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant il y en a eu des humains inédits dans l'histoire du monde, pardon, et donc de se dire ça, déjà ça, c'est un changement d'éclairage, un changement de perspective. Et ça nous permet d'aborder peut-être l'enfant d'une manière différente. Du coup, sans effort, mais avec une curiosité, avec un certain attrait pour cette ce nouveau-là, et du coup, automatiquement, on est dans une attitude déjà un peu différente. Et c'est pour ça que c'est une question d'attitude et pas de méthode. Et c'est pour ça que je rue un peu toujours dans les brancards quand on essaie de me faire entrer dans la catégorie « bon, ben voilà, on va parler de unschooling maintenant, ou on va parler de l'école à la maison, ou on va parler d'éducation violente, ou on va parler de Montessori, on va parler de Freinet, on va parler de Steiner, la sacro-sainte trilogie, etc. » Non, parce que tout ça, c'est des méthodes. Encore une fois, hein, même le unschooling, oui, l'IEF, l'instruction en famille, chose dont on pense que je suis prêt et j'en suis pas loin puisque je l'ai vécu et je le vis avec mes enfants, mais tout ça, ça reste des méthodes. Et moi, je parle d'une chose qui est bien avant, qui est l'attitude. L'attitude dans laquelle on rencontre l'enfant. Et donc, c'est intéressant parce que ce dont nous souffrons, c'est de cet enfant blessé auquel il a toujours été dit que je t'aimerais davantage si tu changeais. Mais à partir du moment où nous disons à un enfant, le nôtre, par exemple, je t'aime parce que tu es comme tu es, et que nous le disons dans le non-verbal, ça fait appel donc à des choses très profondes en nous. Et du coup, bah, nous traversons le miroir, tout d'un coup on est de l'autre côté, et on est en train de le dire par notre attitude à tous les enfants du monde, y compris, et c'est là qu'a lieu une chose qui arrive d'elle-même et qui n'est donc pas un effort, y compris à l'enfant blessé qu'on porte en soi, qui probablement pour la toute première fois de sa vie entend ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça, c'est juste une promesse de ma part, une invitation à traverser ce miroir, parce que ça change tout. Du coup, on se met à tout éclairer de manière différente, parce qu'on part d'ailleurs, on part de la confiance, au lieu de partir toujours de la méfiance, de la motion de censure, envers soi-même. Mais cette motion de censure envers soi-même, c'est évident, puisqu'on n'a pas arrêté de nous dire que tel que nous sommes, ce n'est pas suffisant, et que du coup, on n'a pas arrêté de se voir avec les yeux des autres. On n'a pas arrêté de se voir avec les yeux des autres, ce qui fait que l'on est ceci ou cela. On est plutôt paresseux, plutôt manuel, on est le sport, c'est pas pour moi. Et ça conduit comme ça à un jugement de soi-même complètement hallucinant, dont le point culminant est l'une des phrases les plus absurdes qui soit, et qui est pourtant l'une des plus dites, vous allez la reconnaître. C'est la fameuse phrase « Je suis nul en maths ». Reprenons cette phrase. « Je », première personne, « je suis », du verbe « être ».« Nul », c'est un jugement de valeur épouvantable sur sa propre personne. Or, j'ai la chance, je vous disais, de travailler avec de nombreux scientifiques. Ils en rient de cette phrase parce qu'elle est ridicule du point de vue scientifique, puisqu'il n'y a pas un seul mot correct dans cette phrase. C'est marrant qu'une des phrases les plus employées sur Terre ne contienne aucun mot correct. La phrase correcte, scientifiquement correcte, au moment de dire ce que l'on ressent quand on dit « je suis nul en maths », la phrase correcte, scientifiquement correcte, serait la suivante. Les mathématiques ne m'intéressent pas. Et ça, c'est complètement autre chose. Et c'est la seule vérité. C'est la seule vérité parce que, alors revenons-en à ma joie d'annoncer que apprendre n'existe pas. Apprendre n'existe pas parce que notre cerveau n'est pas fait pour ça. Donc je travaille avec des neurobiologistes en Allemagne et en Pologne. Notre cerveau n'est pas fait pour apprendre. Il n'est pas du tout optimisé pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'adore pas apprendre. Bon, c'est aussi parce qu'on a fait un amalgame fâcheux et complètement incompréhensible quand on arrive d'ailleurs comme moi entre apprendre et apprendre par cœur. Parce que apprendre est une chose. Apprendre n'est pas une chose qu'on peut faire. Et non. Du point de vue scientifique non plus. Apprendre ne peut pas se faire. Apprendre n'est pas une chose que nous faisons. Apprendre est une chose qui nous arrive. Et du point de vue scientifique, c'est ça. Et dans les faits, c'est aussi ça. Mais malheureusement, on a confondu apprendre et apprendre par cœur. Et là, c'est un grand malheur. Parce qu'apprendre par cœur, ça, c'est une chose qui peut se faire. Sans efficacité, mais qui peut se faire. À l'inverse d'apprendre, qui ne peut pas se faire. Notre cerveau n'est pas fait pour apprendre. Il n'aime pas mémoriser des informations parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est optimisé pour autre chose. Il est optimisé pour résoudre des problèmes. Et à ce jeu-là, il est excellent. Résoudre des problèmes, c'est notre optimisation. Et si à l'intérieur d'une recherche de solution, une information est pertinente pour résoudre un problème, alors elle est mémorisée très volontiers par notre cerveau. Et elle l'est pour toujours. Pour le dire en des termes un peu plus techniques, une information, pour être retenue, doit activer les centres émotionnels dans notre cerveau. Si elle n'active pas les centres émotionnels, l'information entre par une oreille et sort par l'autre, ce qui conduit à des statistiques absolument hallucinantes, c'est que tous ceux qui nous écoutent à l'heure qu'il est ont oublié 80% des choses qu'ils ont dû apprendre, tout simplement parce que leur centre émotionnel n'était pas activé au moment où ils ont dû les engranger. Donc ça a été de très courte durée, parfois même impossible. Il y a certaines personnes avec lesquelles j'ai parlé, ils ont eu beau se répéter en boucle des dates, Elles étaient passionnées d'histoire, mais pas par les dates de l'histoire. Elles s'étaient mis à l'époque un Walkman avec les dates en boucle, et le jour de l'examen, plus rien. Alors ça, c'est encore une autre raison, ça. Le jour de l'examen, on peut aussi en parler. Ça, c'est une autre forme de violence qui nous fait perdre quelque chose de très précieux. Et donc, les 20% que vous tous n'avez pas oublié, les 20% que nous tous n'avons pas oublié, sont, et c'est facile d'en faire l'analyse, exactement les 20% qui vous ont intéressé au moment où vous les avez rencontrés, qui vous concernaient, qui vous touchaient, la personne vous touchait, la thématique vous touchait, la thématique était en lien avec une thématique qui vous enthousiasmait, etc. Donc c'est pour ça que les centres émotionnels étaient activés et qu'aujourd'hui encore, vous n'avez rien oublié. Et là, ça c'est intéressant de constater donc que apprendre ne peut pas se faire puisqu'il n'y a aucune chance. Toute tentative, la répétition, les devoirs à la maison, qui sont, en passant, la reconnaissance du fait que la méthode n'a pas fonctionné là où elle a été pratiquée. Donc il faut encore recommencer à la maison, alors que ça ne marche toujours pas, puisque ça ne peut pas, puisque sans activation des centres émotionnels, ça ne peut pas fonctionner.
J'aime beaucoup ce passage.
Et donc... Donc reprenons le fil, n'est-ce pas ? Donc je suis nul en maths, n'existe pas, puisque il y a juste... Donc c'est pas la faute des mathématiques, c'est pas la faute de moi, c'est juste la faute d'un point de rencontre qui n'était pas opportun. Et voilà, là ça devient un grand soulagement, parce que c'est pas ma personne qui est nulle, hein, c'est donc, mais on continue à se voir avec ces yeux-là, à penser qu'on est nul, et toute notre vie, on va transporter ça, effectivement, jusqu'au moment où peut-être une rencontre comme celle d'aujourd'hui suffit à faire « Ah, mais il y a un autre éclairage des choses. Ah, mais finalement, le fait que je n'ai pas appris les maths, c'est peut-être un bon signe. C'est peut-être que j'ai encore défendu quelque chose de ma nature en moi. Finalement, ce n'était peut-être pas répréhensible. Finalement, on commence à éclairer les choses d'une manière un peu plus libre. » Et peut-être en enlevant, et puis ça aussi j'en reparlerai probablement, j'espère, en enlevant ce satané couvercle de toutes les injonctions.
Justement, pour le coup, on va... Alors, j'ai plein de sujets sur lesquels on va revenir. Là, vous parlez d'injonctions, donc ce qui m'intéresse comme lien pour moi, ça serait avec la notion de bons parents que vous avez évoquée tout à l'heure. Et oui, parce que... mine de rien, je voudrais pas non plus que les parents pensent que voilà, il y a un problème et c'est eux. Ils subissent aussi et nous subissons tout un tas d'injonctions extérieures à être.
Mais que des injonctions.
À être des bons parents. Et c'est quelque chose qu'on a largement évoqué dans la saison 1, notamment avec Virginie pendant les focus. Je me permets aussi de citer Céline Bourde-Vervessière qui avait fait un excellent post sur Instagram où elle parlait de la checklist du parent parfait. J'ai adoré cette comparaison. Mais alors pour le coup, le bon parent, mais c'est quoi ?
Ah, le bon parent. Alors, concept général du bon parent. Cocotte minute, couvercle visé, feu qui brûle en dessous. Depuis l'enfance déjà, hein. On l'a depuis toujours, hein. Mais alors le concept du bon parent, c'est sûr, s'il faut faire gaffe, être un parent, c'est déjà, Cédric, c'est difficile. Mais donc attention, déjà tout va changer, etc. Tu vas plus dormir. Bon, déjà c'est difficile, rien que pour ça, parce que voilà, puis t'existes plus, puis que c'est rien. Donc on fait déjà la liste. Et puis attention, de tes décisions d'aujourd'hui dépend l'avenir de tes enfants. Alors fais gaffe à prendre les bonnes décisions. Alors tu es déjà en train de te prendre 2-3 couches là d'injonctions. Et puis il faudra pas rater les moments importants. Hein. Il ne faut pas rater, c'est très important, les moments charnières, il ne faut pas rater le moment, par exemple, pour que ton enfant soit propre. Attention de ne pas rater. Hein. Attention de ne pas rater le moment, Cédric, parce que sinon, si tu rates le moment pour être propre de ton enfant, et il est très, très défini, hein, il y a même des moyens très simples de savoir si c'est le cas ou pas maintenant pour ton enfant, paraît-il, dans tout cas. Et donc fais gaffe, parce que, attention, hein, je suis au troisième degré.
Oui, non, j'ai...
s'en rendre compte. Donc fais gaffe de ne pas louper le moment où ton enfant doit devenir propre. Parce que si tu loupes le moment où ton enfant doit devenir propre, tu sais ce qui va se passer. Ah ben, ça sera loupé et pour toujours. Et après, ton gars, il aura 45 ans, il se baladera dans les rues avec des couches et il te fera une double honte. La honte numéro un, c'est qu'il dira « Ben oui, voilà, je porte encore des couches. » Mais deuxièmement, ben, c'est parce que mes parents ont loupé le bon moment. Hein, alors du coup, c'était foutu. Hein, donc voilà, c'est comme... Et il ne faut surtout pas louper le bon moment pour faire les bonnes corrections. Il y a les bonnes corrections au bon moment. N'oublie pas non plus d'avoir la bonne dose d'autorité. N'oublie pas qu'il n'y a qu'un chef. Hein. Il faut que ce soit toi, parce que si ce n'est pas toi, ben... j'adore, j'ai réécouté récemment Pierre Desproges qui dit « Oui, de temps en temps, il faut bien céder, hein, parce que sinon tu te fais marcher dessus.
C'est une belle phrase.
en parlant de ses enfants. Hein. Et donc, oui, justement, il ne faut pas te faire marcher dessus, etc. Il faut corriger les bonnes choses au bon moment. Hein. Attention, hein. Corriger les fautes que font les enfants. Par exemple, allez, je vais donner un exemple concret. Alors moi, j'ai deux garçons. J'en ai un qui a 4 ans et un autre qui a 10 ans, bientôt 11. Qui ont tout bouleversé dans ma vie, même mes convictions dans certains cas. Mais Benjamin, il y a un an, il disait « Bibi pour cuillère ». Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est l'histoire de Benjamin.
Son mot.
Pourtant, il nous entend dire « cuillère ». Ben voilà, c'est son mot. Il dit « Bibi pour cuillère ». Et là, il y a des gens que ça a choqué. Ils nous ont dit « Mais attends, il faut le corriger. Il faut le dire que c'est pas… Il faut... Mais, alors, du coup, corriger, déjà, donc violence éducative, hein, mais corriger, mais c'est-à-dire donc c'est penser que l'enfant n'est pas dans le droit chemin et qu'il va nous être reconnaissant un jour d'y avoir mis, n'est-ce pas ? Ben, il faut, par exemple, lui dire « Ah non, alors prendre la cuillère et dire « Ça, c'est une cuillère. Tu veux quoi ?» Une bibi, ah non, j'ai pas de bibi, mais j'ai une cuillère si tu veux. Mais bibi, ah non, mais attends que tu diras bibi, je pourrais pas te la donner. Hein, voilà, donc c'est horrible. J'ai dû comprendre que c'était toute une attitude derrière ça, que c'était pas juste des gens qui prenaient un malin plaisir à torturer un enfant en faisant semblant de pas comprendre une chose qu'ils ont comprise. Parce qu'il faut pas, il faut pas, il faut pas être dupe. Hein. J'allais dire un gros mot. mais à l'intérieur de notre famille, on a bien compris que bibi, ça veut dire cuillère. Donc la communication fonctionne. Il dit le mot bibi, il obtient une cuillère. La communication a parfaitement fonctionné. Mais alors là, c'est pareil, il faut pas se louper, hein. Il faut corriger à temps, hein, parce que si on corrige pas à temps, déjà ça prouve que l'enfant est tordu. Mais et donc faut le mettre droit, parce que sinon il poussera pas droit. Hein. C'est comme mettre un tuteur. Bon. Et donc si tu le remets pas dans le droit chemin, ben un jour, ben Benjamin, il ira dans un café et puis il dira garçon, s'il vous plaît, une bibi. Et ben le garçon il comprendra pas ce que ça veut dire bibi et puis du coup ben il sera bien embêté, il t'en voudra que tu l'aies pas corrigé à temps. Donc voilà, c'est une pression, c'est cette nécessité d'être des bons parents et puis de bien faire ça, de bien faire ceci, de bien faire cela, de bien porter, de bien nourrir, de bien avec les bonnes choses et puis de faire les bons choix éducatifs et de faire les bons choix, la bonne école, la bonne crèche, les bonnes couches, etc. Et ça n'arrête plus, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Et cette pression, ces injonctions multiples, la nécessité d'être un bon parent, mais quelle pression, quelle cocotte minute. Et c'est une cocotte minute qu'on reconnaît d'autant plus qu'on est baigné dedans depuis notre plus tendre enfance. Où on a commencé dès notre plus tendre enfance à faire brûler le feu des attentes sous la cocotte minute au couvercle vissé en nous disant bah, tu sais, il faut que tu sois sage. D'ailleurs, sage, c'est très intéressant. Sage, c'est dire oh, comme tu es sage, c'est dire ah, je te vois parce que tu es invisible. Parce que dès que tu es visible, là, tu as un comportement perturbant, tu déranges. Donc, tu es sage. Je te vois parce que tu es invisible. Dès que tu deviens visible, tu déranges. Donc tu n'es plus sage. Excusez-moi, c'était pas ça. C'était donc il faut que tu sois sage, il faut que tu écoutes, il faut que ensuite à l'école tu écoutes bien parce que si tu n'écoutes pas bien, si tu n'apprends pas bien, tu auras de mauvaises notes et si tu n'as pas de bonnes notes, eh ben tu pourras pas faire de bonnes études et si tu ne fais pas de bonnes études, eh bien tu n'auras pas la possibilité d'avoir de bons diplômes et si tu n'as pas de bons diplômes, eh ben tu n'auras pas de bon travail et si tu n'as pas de bon travail, eh ben tu n'auras pas d'argent et si tu n'as pas d'argent, tu n'auras rien car qui n'a rien n'est rien et tu n'auras rien, tu n'auras pas de femme, pas d'enfant, pas de mari, pas de maison, pas de voiture, pas de chien, rien, tu n'auras rien. Et la pression monte, et la pression monte, et la pression monte, elle devient écrasante, et elle continue comme ça, elle passe de l'enfant aux parents, et cette pression monte, 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 et tout le secret serait là, c'est d'enlever ce couvercle.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je t'aime parce que tu es comme tu es. De quoi ont besoin nos enfants ? Aucune idée. Personne ne sait ça. Toute personne qui nous balance un « les enfants ont besoin de ceci, les enfants ont besoin de règles, les enfants ont besoin de... » Mais reportons-le à une autre forme de « isme ». Je me mets du haut de mon 1m88 face à une femme assise et je lui dis, en venant bien bien proche, là, comme ça, là, lui dire, hey, moi je sais ce dont les femmes ont besoin. On peut avoir un consensus. Non, ça veut dire qu'on a avancé sur certains ismes, mais pas du tout sur d'autres. On peut avoir toute une salle qui est d'accord quand on leur dit les enfants ont besoin de limites. Ah ouais, parce que sinon c'est le chaos. Ouais, t'as toute une salle qui dodeline de la tête en disant ouais, il a raison quand même, hein, il faut. Et puis après, tu viens et tu leur dis la même chose, hein, les femmes ont besoin de limites, et là, ça passe plus du tout. Mais j'ai juste changé un mot, j'ai rien changé à l'attitude. Et là, juste parce que j'ai changé un mot, du coup, ça devient inacceptable. Or, cette injonction donc d'être de bons parents repose sur l'idée que certains ont de ce dont les enfants ont besoin. On ne peut pas savoir ce dont les enfants ont besoin parce que tous les enfants sont différents. Par contre, ce que l'on peut voir quand on arrête de partir de notre idée qu'ils ont besoin de quoi ? Ben de nous, donc de notre grand savoir et de notre expertise. Quand on arrête de partir de cette idée-là et qu'on se demande ce qu'ils cherchent, ce que les enfants cherchent, donc ce que nous cherchons tous, parce que nous continuons à chercher ce que nous cherchions quand nous étions enfants. Et là aussi, on est à un méta-niveau de la recherche. Qu'est-ce qu'on cherche tous ? On cherche un port d'attache. Nos enfants cherchent un port d'attache. Et ce port d'attache, c'est-à-dire cet endroit de sécurisation, est un endroit non géographique. C'est un endroit non géographique où l'on te dit dans le non-verbal « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et quand, en tant que parent, on a réussi à donner dans le non-verbal à l'enfant ce port d'attache de ce « je t'aime parce que tu es comme tu es », mais voilà, là, hein, on peut se caler dans son fauteuil comme je le fais, croiser les mains derrière la tête, mettre les doigts de pied en éventail et se servir un bon cocktail, parce qu'on peut prendre ses vacances, on a déjà fait tout ce qu'il est nécessaire de faire pour être un bon parent. Nous avons fait tout ce que nos enfants attendent de nous quand nous leur avons donné ce port d'attache qui n'est autre qu'un lieu non géographique, je le répète, dans lequel on te donne à sentir de manière non verbale que l'on t'aime parce que tu es comme tu es. Si on a fait ça, on a déjà été un bon parent, on n'a fait aucun effort, on peut complètement se détendre. Le reste, c'est du bonus. Le reste, surtout, c'est une merveilleuse histoire que notre enfant écrira lui-même, parce qu'une fois qu'on a un port d'attache, on se livre à une autre de ces dispositions spontanées qui est d'aller dans le vaste monde, à la rencontre de la diversité des autres, avec le désir de la diversité des autres, sachant que la diversité, c'est l'enrichissement, que toi et moi différents, eh ben on va faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on était seul ou si on était tous pareils. Et c'est ça, cette notion d'altérité, d'enrichissement, qui est la nature de l'enfant. Et c'est pour ça que l'enfant ne connaît pas les ismes. Et c'est pour ça qu'il percute les ismes et finalement se disloque en des milliers de petits lui qui essayent de luire face à cette lumière perdue de la confiance qu'ils avaient à la base.
Eh bien, moi, il faut que je me remette un peu. Non, mais par transparence avec les auditoristes, faut que je me remette un peu parce qu'il y a une intensité dans ce qui se passe en moi qui est très forte. C'est, je suis extrêmement, enfin, je ne peux que, je sais pas si j'ai déjà été autant d'accord de tout mon être avec quelqu'un quand il parle. Voilà. Donc ça, déjà, je tiens à vous le dire. Je pense que c'est un message important. Est terriblement puissant parce qu'il est aussi terriblement simple finalement et qui va résonner en plein de gens. Donc merci pour ces mots, je trouve ça magnifique. Tout à l'heure on parlait de la case du unschooling, de tout ça, et je vais vous poser une question qui est tirée d'une citation que vous avez vous-même utilisée et je pense que vous la reconnaîtrez. J'ai envie de dire, est-ce que finalement quand on s'intéresse comme ça au unschooling, est-ce que au lieu de chercher une instruction alternative, on ne cherche pas une alternative à l'instruction?
Ben oui, parce qu'on cherche une alternative à une certaine attitude. Et l'instruction déboule d'une certaine attitude.
Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'au final, moi, ce que je comprends dans votre propos, c'est que arrêtons, et c'est ce que vous avez dit au tout début, hein, c'est génial parce qu'il faudra bien écouter le podcast pour bien faire tous les liens. C'est ce que vous avez dit au tout début, c'est qu'au final, dans cette notion d'instruction, il y a cette notion de faire rentrer quelque chose dans l'enfant. Alors finalement, l'idée, c'est de laisser émerger, de laisser jaillir.
L'idée, c'est finalement d'avoir confiance, exactement. Encore une fois. L'idée, c'est d'être dans la confiance ou d'être dans la peur. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que, et je tiens à le répéter, retenir une information. Donc, notre idée d'apprendre, c'est qu'apprendre, c'est retenir des informations. C'est complètement faux. Mais c'est ça notre idée de l'apprentissage. Donc, retenir une information est une entreprise désespérée si elle est entreprise sans activation des centres émotionnels.
Ok.
Efficacité proche de zéro. Garantie. Okay. J'ai maintenant, c'est scientifiquement prouvé. Donc, garantie. Impossible. Après, on peut chercher indéfiniment une méthode permettant d'activer ces centres émotionnels, puisqu'on aurait une clé là. Il suffirait d'activer les centres émotionnels. Hein, je tourne, j'appuie sur le bouton, centre émotionnel activé. Donc, est-ce que ça pourrait être une substance ? Est-ce qu'il y a une méthode qui pourrait activer ces centres émotionnels, etc. Donc, on peut chercher tant qu'on veut, hein, et on ne trouvera jamais rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible, il va falloir qu'on parle d'enthousiasme. Il va falloir qu'on parle de peur, mais il va falloir que je finisse ce que j'étais en train de dire. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous aurez beau chercher et faire appel à tous les spécialistes ou ceux qui se diront, voilà, moi, j'ai développé une méthode super machin, super bidule, super truc qui va faire que, ben, sans s'en rendre compte, ben, votre enfant va assimiler des choses et donc fournir la bonne quantité d'informations. Vous aurez donné la bonne quantité d'argent, en contrepartie de quoi il y aura la bonne quantité d'informations vomi au bon moment. Parce que c'est tout ce qui compte, c'est de la vomir une fois. Après, c'est bon, on peut l'oublier, c'est ce qu'on a tous fait. On pourra chercher désespérément une manière, quelle qu'elle soit, d'activer ces centres émotionnels artificiellement, et aucune ne fonctionne. Il n'y a aucune activité qui mette en branle les centres émotionnels. S'il y en a une, et une seule. Jouer est la seule activité qui active nos centres émotionnels dès qu'on la commence et qui ne les désactive que lorsque nous la cessons. C'est-à-dire, dans le cas des enfants, si nous n'étions pas toujours en train d'intervenir, jamais, puisque l'enfant n'arrêterait jamais de jouer. C'est quand même formidable de se rendre compte, et donc une invitation à la confiance, de se rendre compte que le seul outil d'apprentissage qui existe et qui soit efficace est la tendance naturelle et préférée de nos enfants. Et que si nous ne les retenions pas, ils ne feraient que ça. C'est-à-dire que non seulement la première chose que font tous les enfants, c'est de jouer, c'est-à-dire de se consacrer à l'unique activité qui permet d'apprendre les choses de manière durable, mais non seulement, si ça ne tenait qu'à eux, ils ne cesseraient jamais de s'y livrer. Et donc voilà un appel à la confiance, parce que finalement, vos enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de se livrer à cette activité. Alors pourquoi on interrompt les enfants ? Alors je disais tout à l'heure, mes parents, eux, quand ils ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, ce n'était pas contre l'école. Et ça, c'est une notion importante. Il ne faut jamais que ce genre de projet soit contre quelque chose, parce que du coup, on part de soi. Et puis parce qu'être contre les choses, ça n'amène nulle part. Mes parents, ils n'étaient pas contre l'école. Ils avaient personnellement de bonnes expériences scolaires. Non, ils n'étaient pas contre l'école. Ils étaient pour quelque chose. Ils étaient pour les rythmes et les rituels de l'enfant. Et les rythmes et les rituels de l'enfant, c'est, pour rien vous cacher, le thème de mon prochain livre. Parce que on pense que la liberté, c'est le chaos, mais la liberté, c'est les rythmes et les rituels. Et les rythmes et les rituels, c'est notre nature, c'est celle de l'enfant. Mais donc, c'est tout à fait une autre thématique. Pour mes parents, il était par exemple inenvisageable de faire une chose que nous sommes la seule espèce terrestre à faire, c'est de réveiller un enfant qui dort. Excusez-moi, mais c'est de la violence ordinaire, même pas éducative. Et donc mes parents ne pensaient pas que l'enfant était un petit être paresseux qui ne se lève pas parce qu'il est juste trop paresseux pour le faire. Un enfant qui dort est un enfant qui a besoin de dormir, il se réveillera quand il n'en aura plus besoin. Donc déjà, pour eux, il était impossible d'interrompre ce rythme-là de l'enfant ou d'interrompre les rituels de l'enfant au nom d'un autre, c'est-à-dire pour t'emmener quelque part. Et de la même manière, il était pour mes parents complètement inenvisageable d'interrompre un enfant qui joue. Mais pour eux, il était tout à fait inenvisageable d'interrompre un enfant qui joue, parce qu'encore une fois, ben, l'enfant, il joue pour une bonne raison. Donc, ils n'avaient pas les explications scientifiques que j'ai désormais, mais ils avaient cette conviction profonde. Elle suffit, finalement. Et du coup, ça me mettait dans une situation particulière où l'enfant qu'on n'interrompt pas dans son jeu est dans une situation de confiance tout à fait particulière. Parce que, par exemple, l'heure du rituel du dodo venant, parce qu'on parle souvent des questions de structure. Ah oui, mais il faut. Oui, les structures, oui, sont indispensables. Il n'y a pas de liberté sans structure. Mais c'est une structure organique. C'est-à-dire que, par exemple, faite de rythmes et des rituels. Ceux de la société, ceux de la famille, ceux de la communauté, ceux que l'on a personnellement. Et donc, quand venait le rituel du dodo, et une des parties de ce rituel, un des éléments inamovibles sans lesquels le rituel était incomplet, donc effrayant, c'était l'horaire. C'était 8h30, c'était pas une heure que mes parents avaient choisi parce qu'il valait, extinction des feux valait pour tout le monde en dessous d'un certain âge à telle heure. Non, c'était une heure qui s'était cristallisée dans la vie commune. C'était 8h30, et si c'était pas 8h30, j'étais aussi perturbé que si le nounours, ou enfin mon grand chien en peluche manquait, ou si papa le faisait pas faire des galipettes jusqu'au plafond. Je pouvais pas m'endormir parce que c'était pas la même histoire, ou il n'était pas 8h30. Mais si j'avais pas de problème à interrompre mon jeu pour aller me coucher, c'est parce que j'avais la certitude absolue que le jeu interrompu maintenant, je pourrais le continuer sans transition demain matin au lever. Il y aurait pas, personne n'aurait rangé la ferme en Lego et personne ne m'emmènerait nulle part. Et donc cette confiance que c'est juste une interruption au nom d'un autre rituel qui est tout aussi important, oh, vous voyez, c'est ce soulagement. Quoi. C'est même pas un soulagement puisqu'il n'y a pas autre chose. Mais nous, rétrospectivement, on se rend compte du soulagement. Mais je n'ai pas à me faire du souci pour mon jeu. J'ai pas à jouer encore le plus longtemps possible, à repousser le plus longtemps possible le fait d'aller me coucher pour pouvoir jouer une minute de plus parce que je ne sais même pas quand sera la prochaine fois que je pourrai jouer. Là, c'est ben voilà. Et donc, donc, un enfant qui joue est un enfant qui apprend. Alors, c'est phénoménal parce que les enfants ont appris leur langue maternelle sans le son, sans enseignement. Et donc, on me dit toujours, ah donc, t'as appris les choses tout seul. Eh ben non, j'ai pas appris les choses tout seul. On n'apprend pas une langue maternelle tout seul. On n'apprend strictement rien tout seul. On a appris une langue maternelle parce que les autres la parlent, et la parlent avec nous, et la parlent autour de nous. Et au même titre, et c'est marrant parce qu'on pose toujours la question, lire, écrire, compter. Mais ce sont précisément les trois choses, et c'est humoristique qu'on les ait mises sur un piédestal. On m'a jamais demandé, on m'a toujours demandé, moi qui ne suis pas allé à l'école, lâchons le morceau, on m'a toujours dit, et moi qui n'ai jamais été enseigné, hein, j'ai jamais vécu de l'école à la maison. J'ai eu zéro minute d'enseignement dans ma vie, d'instruction. Donc on nous dit toujours écrire, lire,
oui,
compter.
Oui, exactement. Hein,
c'est l'obsession de tout le monde, lire. Et donc dans toute ma vie, moi, on m'a demandé si tu sais lire, si tu sais écrire, si tu sais compter, mais on m'a jamais demandé si je sais cuisiner, danser et chanter. Jamais, personne, même les unschoolers les plus radicaux ne m'ont demandé alors comment t'as appris à danser, à chanter, à cuisiner. On m'a toujours demandé comment t'as appris à écrire, à lire et à compter. Et c'est drôle qu'on ait mis ça sur un piédestal parce que précisément lire, écrire et compter sont les trois matières qu'on ne peut pas ne pas apprendre quand on vit dans une société qui lit, qui écrit et qui compte. Et du coup, et ben, au même titre qu'un enfant a appris sa langue maternelle, il apprendra à lire et à compter et à écrire. Simplement, peut-être pas au moment que nous attendons. Et c'est là qu'entrent en jeu les rythmes et les rituels de chacun. Et que du coup, nous attendons que les enfants sachent lire à je sais pas quel âge. Et puis, si ça se trouve, il y en a qui liront à 1 an et demi, comme Antonin, mon fils aîné, qui savait lire à 1 an et demi. Avant vraiment de parler, il savait lire. Ou vous en aurez d'autres qui attendront d'avoir 8, 12 ans. Moi, par exemple, hein, 8 ans, pour s'intéresser à la lecture. Mais du coup, ils ne l'oublieront pas, mais ils s'intéressent à la lecture. Et pareil pour les langues, pareil pour tout. Voilà, Antonin s'est mis à parler anglais. Je suis incapable de vous dire comment il a appris l'anglais. Je recoupe légèrement. Et je ne suis pas en train de dire, regardez comme mon fils est génial. Je suis en train de dire, regardez comme nos enfants sont des génies de l'apprentissage. Et on ne peut pas ne pas apprendre. Alors, c'est marrant qu'on se fasse du souci pour les choses qui sont justement celles que nos enfants ne peuvent pas ne pas apprendre. Et concernant les mathématiques, une petite aparté. Les études les plus récentes nous montrent que le cerveau, la partie du cerveau en charge des mathématiques, de la compréhension des mathématiques, n'est que très très rarement développée chez l'enfant avant son âge à peu près de 10 ans. C'est-à-dire que toute tentative de nous faire rencontrer les mathématiques avant 10 ans conduit forcément à une relation traumatique avec les mathématiques. Ouais, c'est dommage, hein. Or dans la plupart des cas, ça commence bien avant. Et donc si vous essayez de faire rentrer les mathématiques dans d'un enfant dont le cerveau a moins de 10 ans, ben, vous allez ne faire qu'une chose, c'est créer un traumatisme. Et je connais beaucoup de parents en IEF qui sont inquiets parce que les enfants sont loin des mathématiques à 10 ans. Et ben voilà. Et le petit nombre d'enfants, c'est Marek Kaczmarzyk, un neurobiologiste polonais avec lequel j'ai l'honneur de travailler, qui dit le rare pourcentage d'enfants dont le cerveau mathématique est développé avant cet âge-là sont ceux que plus tard nous allons nommer
des génies,
les enfants doués en mathématiques. Oui, oui. Alors, on va les dire doués en mathématiques. Ils ont juste un cerveau prêt plutôt que les autres. Mais tout le monde est doué en mathématiques, pourvu que les mathématiques l'intéressent. Et alors là, on en revient donc à l'autre notion. Je vais essayer de faire vite quand même, parce qu'elle est importante. Mais on a toujours cru que l'intelligence, alors c'est un autre isme, l'intelligence. Hein. On a toujours cru que l'intelligence était génétique. C'est-à-dire qu'il y avait des gens intelligents et il y avait des gens qui ne l'étaient pas. Et on pensait que c'était génétique parce que notre cerveau était programmé par la génétique. Et on a cru ça pendant des décennies. On a cru ça pendant les décennies où on croyait que la loi de la jungle régentait notre monde et que la loi de la jungle, c'est la compétition, la survie du plus fort. Mmh. Et donc, attention, sois le plus fort, sinon tu vas te faire bouffer la vie.
Et donc, on hiérarchise.
Et puis, on s'est rendu compte. Oui, et puis la vision plus logique qu'on a, je travaille avec des scientifiques dans tous les domaines, hein, maintenant on sait que les lois de la jungle, ce n'est pas la compétition, la concurrence et la survie du plus fort, c'est la solidarité, la synergie et la symbiose. Il y aurait des choses passionnantes à dire sur les arbres, sur les micro-organismes et les arbres, etc. Des choses vraiment passionnantes, on n'aura pas le temps de dire ça, mais je commence en général mes conférences par ça, pour dire que le monde a complètement changé dans sa vision de la nature, mais pas encore dans sa vision de l'enfance, puisque parallèlement à l'idée que nous avions que la nature est une sorte de champ de bataille, hein, on avait l'idée que l'enfance est le point zéro du développement humain, et qu'il allait partir du point zéro et se développer et aboutir au point culminant qui est, bien sûr, de toute sa hauteur, l'adulte. Ça induisait ce positionnement de l'enfant, les yeux élevés vers l'adulte, d'ailleurs l'adulte qui va élever l'enfant, les mots ne sont pas là pour rien. Hein. Et puis on s'est rendu compte, et là aussi, alors l'humain, surtout mâle, s'il est mâle, cis, blanc, waouh, il s'en est pris dans la tronche ces derniers temps, et peut-être pas encore assez, mais il a dû admettre des choses toujours de plus en plus difficiles à admettre, hein, l'idée que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, donc que l'humain n'est pas au centre de tout. Ça a été dur à avaler cette pilule-là, il y en a eu plein comme ça.
Et visiblement pas assez.
Il a dû se prendre dans la tronche que, par exemple, il n'est pas le centre du monde, que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais l'inverse. Déjà, ça, c'est des trucs, ça l'a bien secoué, ça n'a pas arrêté comme ça. Après, il y a eu ça par rapport aux femmes aussi, hein, tout d'un coup, on l'a un peu embêté.
Par rapport aux femmes, on est encore quand même beaucoup dedans. Hein.
Oui, mais là, on commence à l'embêter. Bien sûr que par rapport aux femmes, on est encore dedans.
Il faut continuer de l'embêter, hein.
Mais c'est rien comparé parce que disons que pour ce qui est du sexisme, on est on va dire sur le trajet d'ici à la Lune, on a fait un pas de fourmi, mais en ce qui concerne l'enfance, on l'a même pas encore fait ce pas-là.
Hein. Oui, exactement, tout à fait.
Donc à l'intérieur même de tous les ismes, il y a de l'agisme, c'est formidable. Hein. Les gens victimes de ismes pratique même l'agisme. C'est formidable, mais c'est comme ça. Mais donc, il s'est pris dans la tronche toutes sortes de choses. Et la dernière chose que l'humain, d'une manière générale, se prend, adulte, se prend dans la tronche, c'est que l'enfant vient au monde en tant que bombe de potentiel. L'enfant peut tout apprendre et tout devenir parce que les programmes génétiques qui nous construisent ne savent ni où ni quand nous viendrons au monde. Et si nous venons au monde sur une calotte polaire en pleine période glaciaire il y a 20 000 ans, on n'a pas besoin des mêmes potentiels pour survivre que si on vient au monde dans 200 ans dans un désert aride. Or, ce sont quand même les mêmes programmes génétiques. Et ils ne savent pas à quoi nous préparer. Et comme ils ne savent pas à quoi nous préparer, ils ont eu l'idée géniale de nous équiper de tous les potentiels existants afin que dans ce surplus phénoménal, il y ait forcément les quelques potentiels dont nous aurons besoin pour survivre dans notre environnement respectif, qui est toujours changeant. Et donc, c'est toujours les mêmes potentiels, tous. Il n'y a pas de handicap, il n'y a rien qui nous prive de l'entièreté des potentiels humains. Donc, un enfant peut tout devenir et tout apprendre. Mais ça va dégénérer très vite puisque les capacités nécessaires à la survie dans notre environnement sont assez limitées finalement. On a besoin d'une poignée de potentiel pour survivre. Et les autres, comme ils sont inusés, inutilisés, ils s'effacent, ils font la place à ceux dont nous avons besoin pour survivre. La capacité de reconnaître des nuances de vert est indispensable dans la forêt vierge, pas du tout dans une ville européenne. Donc, les potentiels nécessaires à la reconnaissance des nuances de vert disparaissent chez un enfant citadin au profit des potentiels permettant la survie dans un environnement citadin. Mais ça n'arrive pas qu'à l'un de nos potentiels, ça arrive à l'ensemble ou la plupart de nos potentiels. Et pendant les premières années de notre vie, nous assistons à une véritable hémorragie des potentiels. Nous semons dans le vent la plupart des potentiels avec lesquels nous étions venus au monde au profit d'un certain petit nombre. Ce qui fait que, née bombe de potentiel, le développement qui a lieu ne va pas comme on le croyait du point zéro vers le point culminant qui est l'adulte, mais complètement à l'inverse. À force d'élaguer, eh bien, que reste-t-il ? Quand on a perdu la plupart des potentiels de l'humain, que reste-t-il ? Un adulte. Et ça, c'est une pilule difficile à avaler. Et du coup, l'adulte se rend compte qu'il est une version bonsaï, hein, qu'il est une espèce de version bonsaï, alors
d'un enfant.
Que, par rapport à l'enfant, il est face à un géant des potentiels, qui peut encore tout devenir et tout apprendre.
Ah, ça me met des frissons.
Ben oui, mais ça change tout. Et voilà une des choses qu'il est important de dire aujourd'hui, parce que ça change notre manière d'aborder l'enfance. On ne peut plus aborder l'enfant qui est un géant des potentiels de la même manière que nous l'abordions quand nous pensions qu'il était au point zéro du développement. Donc voilà pour ce que je voulais dire, c'était qu'il y a eu toutes ces périodes, et que pendant cette période-là, qui vient juste de finir, la période où nous pensions que l'enfant était 1.0, et le moment où nous découvrons qu'il est un géant des potentiels, et ça nous en met plein la tronche au passage, parallèlement à cette époque, on nous a fait croire donc que l'intelligence, et j'en reviens à tout à l'heure, l'intelligence était génétiquement programmée et que notre cerveau était programmé par nos gènes et qu'on n'échappe pas à sa génétique et qu'on vient au monde intelligent ou bête et qu'on le reste toute une vie. Et donc on a cru ça et on a constitué tout un ordre du monde, car notre ordre du monde repose non seulement sur la compétition, la concurrence et la survie du plus fort, mais sur l'idée qu'il y a des gens venus au monde intelligent et d'autres qui sont venus au monde bête, et qu'en général on reste dans sa famille, hein, des parents d'un certain type d'intelligence produisant des enfants idem, et puis voilà, et puis basta, on reste fidèle à sa catégorie. Et puis c'est un concept qui a eu beaucoup de succès parce qu'il est facile à comprendre même par les gens réputés bêtes. Et donc c'est pour ça qu'il s'est développé. Or, les découvertes récentes montrent qu'on s'est complètement trompé, parce qu'on a découvert. Alors la piste a été ouverte par le fait qu'on a découvert que la zone du cerveau responsable des mouvements du pouce était plus développée chez les adolescents que de nos jours, enfin d'il y a une dizaine d'années, que les adolescents d'autrefois. Et on s'est rendu compte que c'était parce que l'usage intensif du téléphone portable et des touches, à l'époque on écrivait les SMS avec des touches, avait développé cette zone du cerveau, ce qui a fait faire boum, encore une fois, une bonne claque, un grand coup de pied dans la fourmilière de ce qu'on croyait croire, c'est que le cerveau n'est pas génétiquement programmé d'une certaine manière, mais qu'il change tout le temps et qu'il se développe comme un muscle selon l'usage qu'on en fait. Ah ben zut alors, c'est donc comme un muscle, on va l'entraîner. Alors du coup, il y en a qui ont dit, chouette, alors on va faire des programmes d'entraînement cérébraux. Ils en ont fait du training cérébral, ça ne fonctionne pas du tout. Pour des raisons qu'entre-temps, vous êtes mis à comprendre, mais donc ça fonctionne pas. Et c'est là qu'on a trouvé la clé des choses, en réalité. Et ça, c'est très récent comme découverte. C'est parallèle à l'épigénétique, à toutes ces choses qui ont à peine une dizaine d'années. On a découvert que oui, notre cerveau se développe selon l'usage que nous en faisons, mais seulement lorsque nous en faisons usage avec enthousiasme.
Ben oui.
Et voilà l'enthousiasme, la clé des choses, et j'y reviens, voilà, parce qu'on sait ça.
Et la boucle est bouclée.
Et l'enthousiasme, c'est intéressant parce que c'est ce dans quoi baigne le cerveau de nos enfants. Un enfant, un petit enfant, hein, de 2-3 ans, éprouve une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes parce que tout l'enthousiasme, parce qu'il n'a aucun préjugé, il va vers le monde à bras et à cœur ouvert, sans aucun isme, justement, racisme, sexisme, spécisme, agisme, rien de tout cela. Il va vers les autres, il veut les différences d'âge, les différences de peau, les différences de tout. Il ne voit que différence, il n'est même pas le genre, il n'est pas au courant qu'il y a du genre, parce qu'on dirait un enfant qui a 7 milliards de genres, il trouverait, ben oui, c'est logique, hein, il n'a pas cette vision binaire que nous avons des choses, et d'ailleurs il a l'air ni de l'un ni de l'autre, ou de tout justement. Et il va dans le monde comme ça, et ça l'enthousiasme, et ça le porte d'enthousiasme en enthousiasme. Ça veut dire que voilà un autre appel à la confiance. Notre enfant vient au monde avec un penchant irrépressible pour le meilleur outil d'apprentissage, le jeu, mais de plus il vient au monde avec un cerveau qui baigne du matin au soir dans un bain d'engrais cérébral, c'est ainsi que le nomme la science, un bain d'enthousiasme. Alors après, pareil, ça fait mal quand on se rend compte que les statistiques, elles valent ce qu'elles valent, nous indiquent qu'un adulte éprouve la même quantité d'enthousiasme qu'un enfant. Un enfant l'éprouve toutes les 2 à 3 minutes. La même quantité d'enthousiasme est éprouvée par un adulte toute 1 à 2 fois par an.
Par an.
Voilà, encore une autre fois, un truc à se prendre au passage. Hein.
Alors, pour le coup, moi, il y a une question sur laquelle je voudrais revenir, parce que patriarcat. Vous parlez plusieurs fois de isme, et notamment du genrisme, et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement sur ce podcast. Il y a une question plutôt personnelle que j'ai envie de vous poser, parce que dans différents échanges, notamment avec Noémie Delattre, et je pense que ça a parlé à tous les parents, on se dit tous et toutes que oui, on veut que notre petit garçon puisse mettre des robes, on veut que notre petite fille puisse faire toutes les activités genrées attribuées au genre garçon dans la société. Mais souvent, on a tous et toutes la même crainte, c'est je donne un exemple. Si j'envoie mon petit garçon à l'école en robe parce qu'il a choisi de mettre une robe. Alors déjà, on parle d'un garçon qui va à l'école. Hein. Voilà, je viens juste de percuter là-dessus. Mais si j'envoie mon petit garçon dans le monde, par exemple, avec une robe, dans une société qui va le percevoir d'une certaine manière, comment est-ce que je le vis? Votre plus grand fils, si je me trompe pas, a de magnifiques cheveux blonds et longs. Est-ce qu'il y a un vécu de genrisme vis-à-vis de ça? Comment est-ce qu'on peut l'appréhender dans le quotidien de manière très concrète?
Alors, voilà, effectivement, j'ai envie de dire, si vous devez envoyer votre enfant vers un milieu dans lequel le fait qu'il y arrive en robe sera la source de colibés et d'autres violences ordinaires, il faudrait peut-être réfléchir si c'est un endroit dans lequel vous avez envie de l'envoyer, parce que ça en dit long sur l'endroit en question. Mais ça, c'est, pour moi, ça concerne tous les lieux. Après, il y a la vie, effectivement, toutes les rencontres qu'on fait. Alors, effectivement, Antonin, mon grand garçon, a de magnifiques cheveux blonds, très longs, qu'il porte dans une tresse, avec des cheveux plaqués, et une très jolie tresse que je lui fais tous les jours. Et il a ce visage... fin des enfants, qui fait qu'il est ingenrable en réalité. Mais la robe n'est pas nécessaire. Nos idées concernent l'accoutrement et beaucoup de gens le prennent pour une fille. Alors c'est drôle parce que, je vous disais, les enfants vous retournent parfois comme un gant. Moi, j'ai vécu plusieurs décennies dans la conviction que quand même la bagnole, c'est problématique sur plein de plans, hein. Plein de plans. Donc une conviction arrêtée sur la voiture et puis sur le sport aussi. Je dois vous avouer que j'ai des convictions très arrêtées sur le sport et elles ne sont pas amicales. Et donc la vie est toujours très drôle puisqu'elle m'amène un petit garçon qui, depuis qu'il a 8 ans, se consacre corps et âme au sport automobile. Donc c'est les moments où la vie vient te tapoter sur l'épaule en te disant ben, mon grand, tu dis plein de choses, maintenant il va falloir les vivre. Moi je suis toujours plein de gratitude pour ces moments là donc il pratique le karting et il est rapide, et donc de voir une fille aussi rapide dans une voiture, il y a plein de gens que ça surprend. Alors comment on le vit? Alors Antonin, lui, et c'est ça qui est drôle, il est beaucoup plus militant que moi dans ce domaine là moi pas du tout, je l'ai jamais été. Lui, pour l'instant, à son âge, il a envie d'être militant là-dessus. Ça l'amuse beaucoup. Mais ça l'amuse parce que justement, et c'est ça que je voulais dire, justement, il y a tout ce qui se passe à la maison, toutes les discussions qu'on a menées. Il est parfaitement éclairé sur la chose. Et il a notre je t'aime parce que tu es comme tu es, donc, qui lui fournit ce port d'attache indubitable. Donc du coup, ayant le port d'attache, bon, il va dans le vaste monde. Et soit ça lui est égal, soit ça l'amuse, soit on entreprend une mission comme Antonin, voilà. Et puis nous derrière, ben, on s'amuse. Par exemple, quand quelqu'un dit la demoiselle prendra-t-elle une glace, et puis qu'il lui dit très froidement, toujours parce qu'il adore voir la réaction des gens, il dit je suis un garçon, et là je suis désolé de m'être trompé, parce que voilà, de prendre un garçon pour... Et donc ça conduit à toutes sortes de choses qui moi me font beaucoup rire, et lui aussi, quand la dame du restaurant vient me chercher, me cueillir à la sortie des toilettes en me disant oh, j'ai fait une énorme gaffe, dites-moi ce que je peux faire pour me rattraper. Et donc du coup nous on est là parce que nous on n'a pas vu ça comme ça, lui ça lui passe dessus, hein, et on lui dit vous voyez, lui ça lui fait rien, et puis il vous l'a dit, puis c'est tout. Et puis comment voulez-vous, alors du coup on a développé tout un discours qui est mais comment voulez-vous savoir, avec son aspect c'est difficile, on ne peut pas savoir que c'est un garçon ou que c'est une fille d'ailleurs. Mais ça, on ne lui dit pas dans cet instant-là, mais c'est Antonin. C'est Antonin. Et donc, vous ne pouvez pas savoir. Vous auriez été, alors on a développé ça aussi, vous auriez été la première à ne pas vous tromper, ce qui est vrai. Hein.
Ah oui.
Et du coup, ça passe. Donc, du coup, bon, mais elle est quand même venue avec une glace pour se faire pardonner. Mais des fois, ça prend des formes un peu plus compliquées. Alors, au karting, on voit beaucoup ça, parce que c'est du sport hein, quand même. Même si Antonin, lui, il m'a retourné comme un gant, je disais... Le jour où il m'a dit « Ah, mais moi, je cours pas contre les autres. Les autres sont juste des étalons qui me permettent de remarquer mes limites et je cours contre mes limites. » Et ça,
c'est très, très beau.
Et puis, de me retrouver, moi, sur le bord d'un circuit de compétition automobile à compter les tours et les secondes, à regarder mon fils évoluer là-dedans, c'est tellement inattendu, de toute manière. Mais donc, il roule très vite avec sa tresse qui dépasse du casque. Ils roulent très vite et des fois il y a des gens qui sont là et il y a plein d'histoires à raconter. Je sais pas si c'est l'heure pour des histoires, mais il y en a plein. Il y en a plein. Par exemple, une dame qui le voit rouler, elle regardait toute sa famille rouler. Et Antonin roulait parmi eux. Et Antonin, il est entraîné. Ça fait 2 ans qu'il prend de l'entraînement intensif. Il sait rouler, c'est sûr. En tout cas, plus que des débutants qui viennent pour la première fois, titre de loisir, pour le plaisir. Puis il fait attention à eux, mais il ne peut pas s'empêcher de rouler vite. Donc il les rattrape, il les redouble, etc. Et là, vous avez une maman qui vient et qui dit « Waouh, elle roule vite, hein. Elle est bonne, hein. Ah, c'est étonnant pour une fille. » Alors là, moi déjà, c'est le moment où je deviens un peu plus militant, mais je continue à rien dire parce que se lancer dans une grande discussion à cet endroit-là, ça va mener nulle part de toute manière. On va rester sur nos positions, donc je dis rien, je continue à rien dire, j'ai pas entendu. Puis elle me dit, elle fait de la compétition, alors je réponds oui, il fait des courses. Et donc c'est elle qui n'entend pas. Elle continue à dire ouais, ouais. Et puis on a prévu de dire si elle s'en rend compte. Mais non, vous pouviez pas vous rendre compte, etc., etc. Mais elle se rend pas compte, cette dame là. Et donc tout le monde commence à rentrer dans les stands. La session est finie. Tout le monde va sortir des cartes. Et là, elle me dit, oh, faut que j'aille lui dire combien je suis fier d'elle qu'une fille soit aussi rapide. Et là, j'ai vu le crash. Je me suis dit là, j'ai vu le crash. Je lui ai dit non, mais il faut que je vous précise, vous ne pouviez pas le voir parce que ça ne peut pas se voir et vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que vous auriez été la première. Hein, mais Antonin, elle a vu le nom, hein, il y a des tableaux d'affichage avec les temps de chacun. Antonin est un garçon. Et là, elle s'est décomposée sur place, cette dame, en me regardant et, du haut en bas, en me disant « Oh là 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 là, oh là 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 ». Alors je lui dis, comme toujours, « Non, vous voyez, lui, ça lui est égal, ça ne lui pose pas de problème, ça l'amuse, vous n'en faites pas de souci. » Elle me dit « Mais ce n'est pas vis-à-vis de lui que j'ai un problème. » Alors, c'est vraiment pas vis-à-vis de lui que j'ai un problème, c'est vis-à-vis de vous. « Ah bon, pourquoi ?»« Ah, mais je ne voudrais vraiment pas que vous croyiez que j'imagine qu'il va être homosexuel. »
« Ah là 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 !»
Alors bon, et quand vous disiez qu'on a… Alors voilà, c'est des moments, après on s'en marre en famille, ce qui fait qu'Antonin, ça lui donne une certaine manière d'aborder les choses qui font que j'ai plus de soucis. Après, il y a d'autres choses comme ça. Au karting, un petit garçon qui vient pour la première fois, qui joue avec Antonin, ils étaient tous les deux. Antonin roule encore une fois beaucoup plus vite que lui, donc il le rattrape plusieurs fois, il le double plusieurs fois et ils adorent, les enfants adorent jouer à se doubler, à résister. Et Antonin aussi, et c'est pas souvent parce qu'il est souvent en entraînement, mais là, il y a un enfant avec lui, donc ils peuvent jouer, donc ils se dépassent, se redépassent, ils font des trucs. Etc. À chaque fois qu'Antonin le rattrape, il compte pas le fait qu'il l'a rattrapé, qu'il est en train de lui prendre un tour. Une autre occasion de jouer à se dépasser est venue ou à résister à un dépassement, donc il s'éclate pendant le temps de la session. Et c'est la grand-mère qui payait cette session pour son anniversaire à son petit-fils. Et elle était donc, je la voyais très perturbée, et puis elle disait rien, elle serrait les dents. Et puis ils arrivent tous les deux, ils garent leur voiture, ils enlèvent leur casque et là, les cheveux blonds d'Antonin ruissellent à la sortie du casque qu'elle avait déjà vu. Hein, et tous les deux enfants, ils font un check comme ça, point contre point, tellement ils sont contents d'avoir joué, d'avoir fait ce… Ils sont pleins d'enthousiasme, pleins de suants, rouges et heureux. Et ils viennent vers nous, les adultes, et là, paf, le petit se prend un truc dans la tronche. Sa grand-mère qui lui fonce dessus comme un rapace sur sa proie en lui disant « Mais t'as pas honte de t'être fait battre comme ça ? Surtout, tu n'as pas honte de t'être fait battre par une fille ?»
Ah là là.
Et là, je me suis dit, quand on disait qu'on a fait le premier pas de ce voyage vers la Lune, je crois que c'est un premier pas de fourmi, mais qu'on en a encore beaucoup. Parce que cette dame, cette grand-mère, je suis sûr qu'à une époque, elle s'est engagée pour le droit de vote des femmes, des trucs comme ça, qu'elle ne se rend pas compte. Qu'elle ne se rend pas compte que ce qu'elle porte en elle est finalement une question d'attitude et qu'elle a une attitude en elle qui est encore une fois une manière de se voir avec les yeux de ceux qui nous ont vus autrefois, et c'est là qu'on boucle la boucle. Mais moi, je crois que si on a parlé des choses de manière très transparente avec des enfants très jeunes qui les comprennent très vite, après, il n'y a plus de souci à se faire. Après, franchement, ça devient leur jeu, ça devient « ben moi, je suis comme ça ». Et donc, moi, je suis fluide. Moi, je suis… Je ne vois pas le monde de manière aussi quadrillé que vous, mais c'est pas grave. Je vous aime parce que vous êtes comme vous.
Mais c'est ça. Il le renvoie derrière. Et moi, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est que il y a pas de. Alors c'est cette anecdote est quand même dingue. Et c'est là aussi on fait le lien entre la perception sociétale entre le sexe, le genre et la sexualité. C'était très intéressant cette intervention de la dame. Mais
vous savez, ça c'est des choses que vous venez, les trois choses que vous venez de citer, il m'a fallu, allez, j'ai 49 ans, il m'a fallu 30 ans là pour ne toujours pas les avoir comprises.
Mais c'est génial. Mais c'est génial parce que il y a une phrase qui m'a vraiment interpellé dans tout ce récit. Il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est que vous avez simplement dit à la personne, il me semble que c'était la personne avec les toilettes, c'est pas une question d'être un garçon, une fille, homosexuel, hétérosexuel, tout ça, on s'en fout. C'est Antonin.
Voilà.
C'est tout. C'est Antonin et on l'aime comme il est. Et finalement, c'est ce qu'il renvoie autour de lui. C'est comme ça que je comprends.
Mais c'est parce que c'est ce qu'il ressent, donc c'est ce qu'il c'est devenu. Bah c'est devenu un état de confiance, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire que on m'aime comme parce que je suis comme je suis. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas changer, évoluer, progresser dans ma. Hein, quand on voit ma progression et j'en suis encore aux prémices, on se rend compte que ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut dire qu'on nous aime comme on est. C'est pas la même chose. Et que du coup, ben, on est dans la confiance et du coup, ben, on aime les autres qui sont comme ils sont. Et on les aime sincèrement.
Et ça permet pour le coup de faire des enfants forts. Et ça me rappelle une phrase très intéressante, et on va pas tarder à boucler d'ailleurs là-dessus. Ça me rappelle une phrase très intéressante qui est qu'il est quand même beaucoup plus facile finalement, quand on se laisse aller, de faire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Et oui.
Cédric, il faut pas faire des enfants forts. Parce qu'on a déjà encore à nouveau des adultes qui font des choses aux enfants. Non, il faut les laisser être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres lumineux, puissants, enthousiastes, capables de tout devenir et de tout apprendre, parce que encore les gardiens de l'océan de nos potentiels. Donc il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Arrêtons, parce que dans faire, il y a nous faire.
Et c'est non, nous faire. Encore un niveau de déconstruction supplémentaire. Merci. Et pour le coup, généralement, je pose souvent la question en fin de podcast à mes invités de dire quel conseil donneriez-vous aux parents ou aux parents en devenir. Je crois que là, vous venez encore d'en donner un bon. Je crois qu'il y a eu un paquet quand même dans cet entretien. Si vous deviez, alors pour le coup, je vais poser la question un peu différemment. Si vous deviez, André, un exercice qui, j'espère, va vous provoquer de l'enthousiasme, si vous deviez synthétiser un conseil ou un concept pour des parents qui nous écoutent ou des parents en devenir, le synthétiser pour les aider dans ce qui les attend.
Alors, ni conseil, ni méthode. Je ne crois ni en l'un ni en l'autre. Donc je ne peux pas fournir ça, ni de réponse unique, puisque je pense qu'il n'y a qu'un possible qui passe par une infinité de réponses. Non, tout ce qu'on aura fait là finalement, tout mon travail depuis ces dernières années, ce n'est qu'une tentative d'invitation, c'est de vous inviter par toutes sortes de petites histoires et de petites choses un peu irritantes à traverser le miroir et à venir du côté de la confiance. Et je pense que le temps de ce podcast, vous êtes venus de ce côté. Et une fois qu'on a traversé le miroir et qu'on est venu de ce côté de la confiance, on peut plus, il n'y a pas de véritable retour en arrière possible. Parce que ben, après certaines choses dont on a parlé aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si on ne les avait pas entendues. Elles sont là, on ne peut plus les ignorer. Et surtout que dans certains cas, ça aura été dans un état d'activation des centres émotionnels. Et donc, traverser le miroir, c'est déjà avoir fait le plus gros de ce travail vers la confiance ou à s'éloigner de la motion de censure. Et donc, mon travail, c'est juste cette invitation à venir de ce côté du miroir. Et si par toutes ces petites histoires, ces petites choses, j'ai réussi à en inviter certains d'entre vous à traverser ce miroir, ben, déjà, je suis dans la reconnaissance, mais dans la gratitude. Mais en plus, si certains d'entre vous, et je suis certain que c'est le cas, ont envie de demeurer une petite minute de plus de ce côté du miroir, ah ben finalement, c'est encore plus enthousiasmant parce que finalement, pas de conseils, pas de synthétisation, parce que sinon c'est thèse, antithèse, synthèse, et on a de nouveau des oppositions. C'est ce méta-niveau du « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Autrement dit, il n'y aura pas de paix sur Terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance.
J'adore. et je ne peux que vous rejoindre totalement. Et pour le coup, je vais vous remercier pour ce voyage de l'autre côté du miroir. Et en effet, j'ai pas envie d'en sortir. Je vous remercie aussi parce que ce podcast qui touche à sa fin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme on se l'est dit, moi je passais un moment exceptionnel, riche en émotions, riche en enthousiasme. Et donc merci beaucoup André pour
merci,
ce moment.
Cédric.
Et j'espère et je souhaite en effet, qui permettra à d'autres personnes de voyager de l'autre côté du miroir, et essayons d'y rester. Tous ensemble, ça serait chouette.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.